Club.
Coupe du Monde, Ligue des Champions, Eurofoot, la planète football vit au travers de ces méga événements. Mais un autre rendez-vous fait vibrer tout un continent, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, dont la 31e édition débute aujourd'hui au Gabon. 16 nations sont en lice pour succéder à la Côte d'Ivoire, vainqueur il y a 2 ans. L'Afrique du football, c'est une pépite de talent exportée principalement en Europe. C'est aussi parfois tapé dans un ballon, envers et contre tout, dans les rues ou sur un terrain vague, l'essence même d'un sport universel. Le football en Afrique se vit avec la même passion qu'ailleurs, on en parle aujourd'hui. Dans Bienvenue au Club, avec un fin connaisseur, un entraîneur bourlingueur, le natif de Sainte-Croix, Raoul Savoie.
Raoul Savoie. Marcel Neuenschwander.
Raoul Savoie, bonjour.
Bonjour.
Ici, on vous connaît pour avoir vécu l'épopée chaotique de Neuchâtel Xamax sous l'ère Chagaïev comme entraîneur adjoint. Là-bas en Afrique, votre réputation est peut-être plus large. Vous avez entraîné 4 sélections nationales différentes, Swaziland, Centrafrique, Éthiopie et l'année dernière, la Gambie. Sans parler d'expérience, bien sûr, à la tête de différents clubs africains. Un petit mot peut-être, Raoul Savoie, pour vous resituer. Avant d'évoquer la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, à quand remonte votre première expérience d'entraîneur en Afrique?
2002. Au Cameroun, avec le tonnerre de Yaoundé, de Georges Weah, Roger Milla. Donc tout de suite, le grand bain avec un très grand club en Afrique et au Cameroun.
Vous étiez ici joueur de Première Ligue, comme gardien du FC Serrières notamment. Qu'est-ce qui vous avait incité à l'époque à devenir entraîneur en Afrique?
Bon, je voulais être entraîneur depuis longtemps. Et après avoir croisé Pascal Bassi à Serrières, j'avais trouvé intéressant dans son approche à l'époque du foot. Il m'avait donné ce virus-là et j'avais eu l'occasion d'entraîner d'abord dans le Val de Travers. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon rêve, c'est-à-dire devenir professionnel en partant en Afrique et au Cameroun avec mon épouse en 2002.
Il faut oser bourlinguer. À l'époque, il fallait peut-être oser aller entraîner en Afrique, ce qui était moins fréquent qu'habituellement.
Oui, à l'époque, c'était vraiment une aventure pour tout le monde. On nous regardait un peu de travers. D'ailleurs, la Fédération Suisse de Foot m'avait un peu snobé à l'époque des diplômes. Et ensuite, ça a pas mal changé, puisque maintenant, l'Afrique est devenue un endroit où tout le monde veut aller, parce qu'il y a non seulement de la qualité, mais il y a un peu d'argent maintenant, et il y a vraiment de quoi faire sur ce continent.
Vous avez vécu les qualifications pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, à la tête de la Gambie. Que conservez-vous de cette expérience?
Oh, une bonne expérience. Les qualifications sont toujours un moment particulier, parce que la CAN est quand même un événement central en Afrique. Dans un groupe assez relevé, avec la Mauritanie, le Cameroun et l'Afrique du Sud, on a très bien participé à ces éliminatoires. On a réussi à sortir l'Afrique du Sud avec un bon match nul à Durban il y a quelques mois. Donc des qualifications où on voulait absolument ne pas simplement être des... Simplement les participer, mais essayer de faire quelque chose de bien. On a réussi à être l'arbitre du groupe, donc c'était une bonne réussite.
Voilà, l'Afrique du Sud qui est un des absents majeurs à cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, hein, c'est juste.
Oui, avec le Nigeria, deux grands absents, avec des moyens et beaucoup de joueurs intéressants, mais les qualifications ont coûté la peau à ces deux pays.
Raoul Savoie, la Coupe d'Afrique des Nations débute donc aujourd'hui avec un match entre le Gabon, le pays organisateur, et la Guinée-Bissau. Vous parlez de cet engouement pour la CAN, c'est similaire à ce qui se passe ici en Europe avec l'Eurofoot justement?
Oh, c'est peut-être un peu plus. À la grande différence peut-être qu'en Afrique, on ne peut pas encore voyager aisément comme on le fait en Europe. Donc il n'y a pas des vagues de supporters comme on a pu le voir en France l'année passée. Il y a des petits groupes de supporters, il y a des gens surtout qui sont dans le pays, qui se déplacent beaucoup, qui vont voir les matchs. Mais c'est un engouement populaire dans chaque pays, mais par contre, c'est pas un gros déplacement de masse au niveau des supporters. Par contre, au niveau de la presse et au niveau des matchs, du suivi des matchs dans les petites cantines, les petits bars, ça c'est quelque chose qu'il faut voir une fois.
Voilà, ça fait l'objet du même battage médiatique, à vous comprendre, que ce qui pourrait se passer pour l'Eurofoot.
Oui, les journaux locaux en parlent depuis très longtemps. Bon, il y a aussi beaucoup de polémiques, parce que forcément, il y a énormément de petites choses qui dérangent, comme l'apport d'énormément de joueurs qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas forcément nés dans le pays, les binationaux. Donc, il y a pas mal de débats dans certains pays, mais c'est surtout maintenant suivi par des grands groupes télévisuels mondiaux. Donc, elle est diffusée partout dans le monde, donc forcément ça devient plus intéressant pour tout le monde.
Ça génère aussi beaucoup d'argent?
Beaucoup plus d'argent que par le passé. Il y a des sponsors intéressants, donc forcément le tournoi est mieux organisé. Il est évidemment mieux géré aussi et les équipes sont mieux reçues qu'il y a quelques années, en effet.
La Coupe d'Afrique des Nations est boycottée par certains joueurs hein, qui évoluent ici du côté de l'Europe. Comment vous... Manifestement, ça fait polémique tout d'abord. Hein, ça, c'est déjà une première question.
Oui, ça fait polémique parce que on remet un petit peu sur le devant le devoir national, car en Afrique, c'est encore quelque chose de très présent. La fierté de porter le maillot, la fierté d'être originaire d'un certain pays. Et maintenant, avec l'essor de ces binationaux, des joueurs qui sont nés en Europe ou ailleurs dans le monde, n'ont pas forcément cet attrait sur le pour le maillot, de se déplacer en plein mois de janvier, faire une compétition alors qu'ils sont professionnels en Europe ou en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord.
Mais outre l'honneur national, ces joueurs européanisés en quelque sorte, est-ce qu'ils ont réellement quelque chose à gagner à venir participer à la Coupe d'Afrique des Nations ?
Alors certains oui, certains ont cet apport-là, ça vient aussi de leur éducation, du rapport qu'ils ont avec leur pays d'origine. Certains n'ont jamais mis les pieds en Afrique et mettront les pieds en Afrique pour la première fois pour ce tournoi ou pour un match de qualification. Et d'autres y vont régulièrement, ont encore un lien. Donc forcément, c'est différent. Ils n'ont pas la même approche de l'événement. Mais après, il y a aussi des soucis, je dirais, professionnels avec les pressions des clubs européens, surtout les clubs qui sont actuellement engagés dans leur compétition, comme les Anglais, qui ont de la peine, vraiment, de la difficulté à voir leurs joueurs s'en aller comme ça pendant un mois en plein championnat.
Il y a toujours des polémiques, peut-être aussi comme à l'Eurofoot. Par exemple, les joueurs de la République du Congo ont fait grève aujourd'hui à l'entraînement pour une question de prime. Vous, comment vous réagissez à ce genre de comportement ?
Alors bon, ça c'est quelque chose de courant et récurrent en Afrique. Même à la dernière Coupe du Monde au Brésil, les Nigériens et les Camerounais avaient pris du retard dans leur préparation à cause de primes impayées, aussi des primes de qualification. Donc après, il y a deux écoles. Soit l'école de dire, bon, ils ne méritent pas leur place, ils ne jouent pas pour le maillot, ils ne sont pas sérieux à quelques heures d'un premier match. Et il y a l'autre côté qui dira, ils ont fait un travail, on leur a promis des choses, il faut absolument régler tout ça avant que la compétition débute. Après, il y a aussi la façon de le faire. Hein. J'ai vu que les joueurs de la RDC, hier, ont fait des selfies, se sont filmés tous ensemble en train de discuter, d'haranguer un petit peu leur gouvernement. Ça, je pense, c'est pas très professionnel. Après, de le faire par... un communiqué du capitaine ou par, je dirais, une méthode plus discrète, ça lève peut-être moins de polémiques et c'est peut-être mieux pour le sport.
Raoul Savoie, il y a beaucoup à dire sur cette Coupe d'Afrique des Nations. On y revient à l'espace d'une petite pause.
Merci.
Bienvenue au club.
Bienvenue au club, deuxième partie, toujours en compagnie de Raoul Savoie qui était la saison dernière l'entraîneur de l'équipe nationale de Gambie pour évoquer l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va peut-être évoquer, c'était intéressant hein, Raoul Savoie, votre situation personnelle, ou plutôt la situation de l'équipe de la Gambie. On évoquait le boycott des joueurs de la République du Congo. De votre côté aussi, ce n'est pas forcément évident d'attirer en quelque sorte vos joueurs dans leur sélection nationale. Vous avez vécu ça au quotidien.
Oui, deux problèmes. Le premier, c'est ces joueurs binationaux qui attendent jusqu'au dernier moment avant de choisir leur sélection. Donc j'avais des joueurs qui étaient aussi dragués, on va dire entre guillemets, par les États-Unis, par la Suède, par le Danemark, par l'Allemagne. Donc forcément, lorsqu'il faut négocier avec eux une première sélection, difficile de batailler parfois avec des équipes plus cotées. Et après, il y a une fois que le joueur choisit sa sélection, donc la Gambie pour mon cas, les faire venir pour des qualifications, alors que c'est des dates FIFA, c'était très compliqué. On avait souvent affaire aux clubs et même aux agents qui empêchaient les joueurs simplement de venir jouer un match, que ce soit contre le Cameroun, l'Afrique du Sud ou l'Ouganda, ou quand même des matchs importants. Alors c'est frustrant pour un technicien parce qu'on doit se passer de plusieurs joueurs de qualité, titulaires en principe, et on doit souvent faire avec deux deuxièmes couteaux. Et si on justifie un résultat moyen ou mauvais par l'absence de ces joueurs clés, on nous tombe dessus en disant que c'est pas des raisons. Donc c'est une situation assez compliquée, car il faut pouvoir jouer avec tous ces joueurs, et c'est pas toujours le cas.
Parce qu'aussi, on doit le préciser, le 65% des joueurs qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations évoluent en club dans des formations européennes. Alors, ça paraît une situation normale, mais c'est gênant, quoi.
C'est gênant, oui, parce que beaucoup de clubs ne veulent pas que les joueurs se déplacent. Parfois, ils inventent des blessures, ils inventent des situations un petit peu rocambolesques pour pas les faire venir. Donc, il est compliqué vraiment de savoir si c'est concret ou pas, cette absence, si c'est vraiment un boycott ou alors simplement une peur de perdre sa place de titulaire ou un renouvellement de contrat qui est en cours. Donc, pas évident. On sait très bien, lorsqu'on fait une liste de 30, que sur ces 30-là, on aura bien un tiers, voire la moitié, qui sera absent pour des raisons plus ou moins claires.
Et dans ces sélections nationales, vous l'avez précisé, il y a peu de joueurs désormais qui sont nés en Afrique.
De moins en moins, de plus en plus de joueurs sont nés et sont issus de l'immigration, donc forcément ont une éducation différente, ont aussi des choix à faire. Parfois, on revient à cette double nationalité, donc clairement, c'est un problème, oui.
Et si le football africain s'est européanisé, qu'est-ce qu'il en est en termes de qualité ?
Alors, en termes de qualité, forcément, il a pris un peu de bouteille. Alors, pas forcément parce que c'est des joueurs qui viennent d'Europe, mais parce que les fédérations aussi, maintenant, mettent en place de plus en plus des cours pour les entraîneurs, ont des infrastructures de qualité. On s'est mondialisé, donc forcément, les entraîneurs locaux se renseignent beaucoup sur ce qui se fait à l'étranger. Pas forcément au niveau de l'entraînement, mais au niveau de tout ce qui se passe autour d'une équipe, au niveau de l'alimentation, au niveau de la récupération. Donc, le niveau, forcément, il augmente.
Le football africain a rattrapé son retard, peut-être non pas seulement technique, mais tactique aussi. C'est un peu comme cela qu'on percevait les sélections nationales en Coupe du Monde. Des sélections nationales qui venaient d'Afrique, il y avait un certain retard peut-être stratégique, tactique.
Alors oui, mais pas dans son entier, parce qu'on reste quand même dans une configuration africaine où il y a un peu de folie, où le joueur a besoin d'être un peu libre sur le terrain. Donc on peut mettre certaines choses en place, mais par contre, je crois que les brider complètement, ça serait une erreur. Il faut aussi laisser un peu cette folie. Alors parfois, des matchs partent un peu en vrille et il est difficile de récupérer à la mi-temps, mais je crois que ça fait partie de l'ADN du joueur africain. Il faut le laisser aussi un peu s'exprimer.
On l'avait écrit, hein, cette fraîcheur, cette spontanéité, elle existe toujours.
Toujours, elle existe toujours. Étonnamment, lorsqu'un joueur européen débarque en Afrique, après quelques heures ou quelques jours, il retrouve un peu de sa folie.
Ça apporte quelque chose de différent ?
Oui, ça apporte un peu d'expérience, un peu plus de professionnalisme, mais par contre, on a toujours ce côté folklorique, entre guillemets, fait que forcément, on est attiré ensuite par ce foot, et lorsqu'on y tombe dedans, on a de la peine à en sortir.
Un mot sur l'aspect purement sportif, justement, de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui c'est qui va ressortir du chapeau ?
Difficile à dire maintenant. Le Gabon, pays organisateur, semble... pas trop en position de gagner, car il a certes de bons joueurs, comme Aubameyang qui évolue à Dortmund, mais il a quelques soucis organisationnels. Enfin, c'est peut-être trop de pression pour pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique. Les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte semblent bien placés pour la gagner.
Comme toujours.
Comme toujours, ouais, ces dernières années, c'est concrètement comme ça. On verra peut-être la Côte d'Ivoire s'ils vont défendre leur titre. Le Cameroun, j'y crois pas trop. Le Ghana, qui était finaliste la dernière édition, pourrait éventuellement faire quelque chose de bien. Ils sont très discrets ces dernières semaines, donc peut-être que ça réserve une bonne surprise.
L'Afrique du Sud, c'est une grosse absence, non ?
Oui, c'est une grosse absence au niveau de l'intérêt, parce que c'est un pays qui a énormément de médias et qui est très présent avec les médias en Afrique. Donc forcément, elle sera moins intéressée et moins impliquée. Mais le Nigeria est une grosse absence aussi. Car le Nigeria est quand même voisin du Gabon. Donc forcément, le Nigeria aurait apporté un petit côté supplémentaire au niveau technique, parce que le Nigeria a beaucoup de bons joueurs. Donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, grosse absence les deux, oui.
Comment expliquer l'absence du Nigeria, justement ?
Bon, le Nigeria a eu une période compliquée, ils ont changé plusieurs fois sélectionneur. Il y a eu passablement de problèmes avec les joueurs qui ne voulaient plus retourner en sélection à cause justement de problèmes d'organisation et de paiement de primes et de salaires. Donc voilà, passablement de problèmes hors foot, des changements de sélectionneurs récurrents, et il a suffi de tomber dans un groupe un peu compliqué. Il n'aura pas manqué beaucoup, hein, un ou deux points, mais ça a suffi pour qu'il reste à la maison.
Raoul Savoie, merci pour nous avoir fourni cet éclairage sur la CAN qui débute donc aujourd'hui. De votre côté, où se situe votre avenir après avoir entraîné l'équipe nationale de Gambie? Vous avez des touches toujours en Afrique?
Alors oui, avec deux sélections, une qui participe actuellement à la CAN, donc on va pas trop en dire. On est en discussion dans les couloirs, et une autre qui n'est pas, qui faisait partie de la dernière édition, mais pas celle-ci. Et là, je pense qu'on est dans les derniers éléments de la discussion. Ça pourrait se faire en courant février pour débuter les qualifications CAN 2019 au mois de juin et continuer les qualifications Coupe du Monde 2018 au mois de mars.
Raoul Savoie, inconditionnel du football africain. Merci et bonne fin de journée à tous. Au revoir.
Merci.
Bienvenue au club.